vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Comment une révolution advient-elle? Des milliers de pages ont été noircies pour tenter de comprendre les mécanismes qui produisent les circonstances aboutissant au changement du cours de l'histoire. Elles peinent cependant à saisir ce qui est le cœur de l'événement. Car la révolution, c'est d'abord une aventure humaine. Il y a un siècle, les manifestations spontanées des ouvrières de Petrograd marquaient les prémices de la révolution russe. En quelques jours, le prolétariat de la capitale, qui, en pleine guerre mondiale, s'était porté à l'assaut de l'autocratie tsariste, jetait à bas l'un des régimes les plus tyranniques d'Europe. Durant 8 mois, malgré le développement à un rythme inégal, dans les villes, les campagnes, et sur les milliers de kilomètres de front où combattaient les soldats, malgré les périodes de stabilisation, de reflux, ce mouvement ne devait pas s'arrêter. Le journaliste, poète et écrivain américain, John Reed, est à Petrograd quand éclate la révolution d'octobre 1917. Le récit qu'il livre de ces journées historiques, véritable épopée des temps modernes, plonge dans la déferlante révolutionnaire soviétique qui va bouleverser le XXe siècle. La révolution en direct donc, son ébullition, sa fébrilité, la détermination des bolcheviks, les idéaux, les erreurs de jugement aussi. Le tumulte, la parole libérée en des joutes oratoires sans fin. La violence larvée, puis finalement bien présente, même si elle est plutôt laissée à l'arrière-plan dans le récit. La force particulière de John Reed est de nous entraîner au cœur des événements. Le plaisir, la complicité entrent en jeu, résonnant avec l'humour et l'ironie de John Reed, rejoignant sa compréhension des événements. L'auteur fait œuvre de poète, en restant à l'écoute des aspirations humaines fondamentales. Comme ses camarades russes sur l'aide pour les revendications des ouvriers et des paysans russes. La paix, la terre, le contrôle ouvrier, la liberté. Né à Portland en 1887, John Reed, rejeton de la bourgeoisie américaine, découvre les idées socialistes au cours de ses études à Harvard. Diplômé en 1910, il se tourne alors vers le journalisme et s'engage en faveur des mouvements ouvriers. Après avoir suivi Pancho Villa durant la Révolution mexicaine, il se rend plusieurs fois en Europe et découvre la Russie en 1915. Farouchement opposé à la Première Guerre mondiale et au régime tsariste, il arrive à Petrograd avec son épouse Louise Bryant en septembre 1917 et assiste avec enthousiasme à la Révolution d'octobre. Après avoir contribué à la naissance du Communist Labour Party aux États-Unis, il retourne en Russie fin 1919 pour participer aux activités de l'Internationale communiste. Victime du typhus en 1920 à l'âge de 32 ans, il est enterré sur la place rouge de Moscou, dans la nécropole du mur du Kremlin, aux côtés des révolutionnaires de 1917 dont il avait décrit le combat. En 2017, Michel Sidorov réalisait une adaptation radiophonique de son ouvrage le plus célèbre, 10 jours qui ébranlèrent le monde. C'est ce feuilleton que nous proposons aux auditeurs de l'Égrégor. Une série en 10 épisodes, pour se rappeler, en reprenant les mots de Paul Matic, que la révolution, est une belle aventure. Épisode 7. La prise du palais d'hiver. La bourgeoisie et les généraux tentent un court instant de s'opposer dans la rue aux ouvriers. Le palais d'hiver tombe comme un fruit mûr aux mains des gardes rouges. Les richesses du palais deviennent patrimoine du peuple.
Messieurs Zinoviev et Trotsky, juste quelques mots, s'il vous plaît. La classe ouvrière américaine vous remerciera pour les informations que vous voudrez bien nous donner. Vous sortez d'une séance extraordinaire du Soviet de Petrograd.
En tant que président élu du Soviet, j'ai pris acte et réaffirmé que le gouvernement provisoire n'existait plus. La caractéristique des gouvernements bourgeois, ai-je déclaré, est de tromper le peuple. Nous, les Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans, nous allons tenter une expérience unique dans l'histoire. Nous allons fonder un gouvernement dont le but unique sera de satisfaire les besoins des ouvriers, des soldats et des paysans.
Lénine était présent à cette séance du Soviet de Petrograd.
En effet, comme moi, il peut enfin sortir de la clandestinité qui nous reléguait dans le quartier de Viborg. L'essentiel de l'intervention de Lénine a consisté à prophétiser la révolution sociale dans le monde entier. J'ai ajouté qu'aujourd'hui, nous avons payé notre dette envers le prolétariat international et porté un coup terrible à la guerre.
Justement, savez-vous comment les soldats du front ont réagi à la nouvelle de l'insurrection ?
Nous avons envoyé de nombreux télégrammes au front. Pour l'instant, aucune réponse ne nous est parvenue.
Le bruit court que des troupes marchent sur Petrograd. Qu'en est-il ?
Nous allons envoyer une délégation à leur rencontre pour leur apprendre la vérité.
Vous dénoncez la volonté du Congrès pan-russe des Soviets.
La volonté du Congrès pan-russe des Soviets est désormais prédéterminée par le soulèvement des ouvriers et des soldats de Petrograd qui a eu lieu cette nuit. À présent, madame, messieurs et camarades, il est presque 22h et nous devons vous quitter afin de nous préparer pour ce fameux Congrès pan-russe des Soviets, pour lequel nous avons œuvré quand d'autres faisaient tout pour le retarder.
Tu dois être épuisé.
Ça va. J'en suis à la première séance du Congrès des Soviets. Il y a eu d'abord l'élection du bureau du Congrès.
Tu veux dire le présidium ?
Oui, c'est la même chose. Tu as les chiffres sur les délégués et l'élection ? Je voudrais comparer avec mes notes.
Attends. J'ai noté 649 délégués à l'ouverture. Quelques-uns sont arrivés plus tard. 390 étaient bolcheviques, 160 socialistes révolutionnaires, 72 mencheviks et 14 mencheviks internationalistes.
Ok, à vérifier. Le vote donna 14 bolcheviks, 7 SR de gauche, c'est ça ? Et il y avait un accord sur la proportionnalité entre bolcheviks, SR de gauche et mencheviks internationalistes.
Exactement. Les mencheviks refusèrent d'occuper les trois sièges que le vote leur avait accordés, et les mencheviks internationalistes de Martov déclarèrent attendre la vérification de certains faits.
Et je me souviens du moment où les anciens leaders du TSIK ont quitté leur siège au premier rang de la salle et ont laissé leur place aux bolcheviks et aux SR de gauche. Il y avait là Alexandra Kollontai, Léon Trotsky, Lunacharsky, Zinoviev et bien d'autres. Kameniev, qui pourtant avait lutté contre l'insurrection jusqu'au dernier moment, était président de séance. Quelle ironie. Et toi, tu discutais avec la SR de gauche, Maria Spiridonova.
La paix, la terre, le pain. Vous avez rejoint finalement les bolcheviks pour la réalisation de ces revendications.
Les mencheviks et les SR de droite reprochent aux bolcheviks d'avoir copié ou récupéré le slogan de la terre aux paysans sur les SR, mais peu importe qui donne la terre aux paysans, le principal, c'est qu'ils l'obtiennent.
Vous pensez que les paysans rejoindront la révolution lors du congrès des soviets de paysans ?
Ils ont commencé à les rejoindre. Tout le pays va s'en emparer. Les paysans sont conscients et ont commencé à organiser partout les changements sociaux.
J'ai beaucoup d'admiration pour vous, Maria. Quand je pense à toutes ces années que vous avez passées, emprisonnées en forteresse.
Oh, j'en ai profité pour apprendre des langues. Quand vous écrirez votre livre sur notre révolution, Louise, ne cherchez pas à peindre un beau portrait de moi, mais apprenez au peuple de la Grande Amérique comment nous nous efforçons de faire vivre nos idéaux.
Le deuxième congrès pan-russe des soviets d'ouvriers et soldats reprend ses travaux. Ah.
N'ayez pas peur, je m'y connais un peu dans le domaine militaire. Avec un bruit aussi assourdissant, il s'agit d'un coup à blanc. Probablement le croiseur Aurore qui lance un avertissement au gouvernement provisoire. Le palais d'hiver n'a pas encore fait sa reddition. Le comité militaire révolutionnaire, où nous autres essaires de gauche avons quelques membres, a lancé un ultimatum et les choses traînent. Vous devrez vous rendre au palais d'hiver pour suivre tout cela de près.
John, je file au palais d'hiver avec Albert.
Je prends Louis sous ma protection, John. Nous ne pouvons être tous les trois au même endroit. Tout va se jouer entre Smolny, le palais d'hiver et la forteresse Pierre et Paul. Nous devons nous répartir les différents postes.
Voici l'ordre du jour. 1. L'organisation du pouvoir. 2. La guerre et la paix. 3. L'Assemblée constituante.
Je demande la parole.
La guerre civile commence, camarades. La première question doit être le règlement pacifique de la crise. On tue nos frères dans les rues en ce moment, alors qu'avant même l'ouverture du Congrès des Soviets, on est en train de résoudre la question du pouvoir au moyen d'un complot militaire organisé par l'un des partis révolutionnaires. Il faut que nous créions un pouvoir reconnu de la démocratie tout entière. Nous devons élire une délégation qui négociera avec les autres partis et organisations socialistes.
La gauche socialiste révolutionnaire et les sociaux-démocrates unifiés soutiennent la proposition du camarade Martov.
Je parle au nom des délégués du front. L'armée est imparfaitement représentée dans ce congrès. L'armée considère par ailleurs que le congrès des soviets 3 semaines avant l'ouverture de la constituante, n'est pas une nécessité. L'armée ne considère pas que le congrès des soviets est l'autorité nécessaire.
Au nom de qui parlez-vous? Qui représentez-vous?
Le comité central exécutif des soldats de la 5e armée, le 2e régiment, le 1er régiment, le 3e fusilier.
Quand avez-vous été élu? Vous représentez les officiers, pas les soldats. Qu'on laisse parler les soldats.
Le groupe du front a résolu de quitter le congrès. C'est dans la rue maintenant qu'il faut se battre.
Vous parlez au nom de l'état-major, pas au nom de l'armée.
J'invite tous les soldats raisonnables à quitter le congrès.
La parole est au camarade Endelman du groupe DSR.
Je parle aussi au nom du groupe des Mensheviks. Nous protestons contre le bombardement du palais d'hiver. Nous sommes opposés à une pareille anarchie.
Maria, il semble que les efforts de Martov pour réunir tous les partis soient compromis, malgré la belle unanimité qu'ils avaient provoquée.
Vous avez raison. la provocation des officiers va renforcer la gauche du Congrès.
Camarades, je m'appelle Peterson. Je représente le 2e d'infanterie letton. Les déclarations de l'officier n'ont aucune valeur. Les officiers ne représentent pas les soldats. La convocation de notre soviet a sans cesse été remise afin que ces messieurs puissent rester délégués au congrès des soviets. À présent, ils nous montrent leur volonté de saboter le congrès. Depuis des mois, nous répétons, assez de résolutions, assez de bavardages. Nous voulons le pouvoir. Que les délégués imposteurs quittent le congrès. L'armée n'est pas avec eux.
Ces paroles, c'est la voix des soldats. Les millions grouillants d'ouvriers en uniforme sont comme lui, ils se sentent comme lui.
Le renversement de la marée a commencé.
La parole au camarade Abramovitch du groupe du Bund.
Au nom du Bund, le parti des sociaux-démocrates juifs, j'affirme que ce qui se passe en ce moment à Petrograd est une épouvantable calamité. Le groupe du Bund se rallie à la déclaration des Mensheviks et des SR et quitte le Congrès. Notre devoir envers le prolétariat russe ne nous permet pas de rester ici et d'accepter la responsabilité de ces crimes. Comme le bombardement du palais d'hiver ne cesse pas,
du coup de canon. Non.
Comme le bombardement ne cesse pas, la Douma municipale, d'accord avec les Mensheviks, les SR et le comité exécutif du Soviet des paysans, a décidé de mourir avec le gouvernement provisoire. Nous allons les rejoindre et sans armes. Nous offrirons nos poitrines aux mitrailleuses des terroristes. Il donne froid !
Restez à vos places. Continuons à travailler. La parole est au camarade Trotsky. Pour le groupe bolchevique.
Un soulèvement des masses populaires n'a point besoin de justification. Ce qui s'est produit est bel et bien une insurrection et non pas une conspiration. Les masses populaires se sont rassemblées sous notre bannière et notre insurrection a été victorieuse. Et maintenant, on nous dit, renoncez à votre victoire. Faites des concessions. Trouver des compromis. Mais avec qui? Je le demande. Avec qui devrions-nous passer des compromis? Avec les groupes misérables qui nous ont abandonnés? Ou qui nous font ce genre de propositions? Mais enfin, nous les avons vus à l'œuvre. Il n'y a plus personne en Russie qui les soutienne. Un compromis? Mais les deux parties sont-elles en situation d'égalité? Un compromis entre les millions d'ouvriers et de paysans représentés à ce congrès et ces groupes prêts pour la énième fois à les brader pour le bon plaisir de la bourgeoisie? Non, aucun compromis n'est envisageable. À ceux qui ont abandonné le congrès et à ceux qui nous exhortent au compromis, nous devons dire « Vous avez failli pitoyablement. Votre rôle est révolu. Rejoignez votre destination. » Les poubelles de l'histoire. Bravo !
La parole au camarade Ryazanov du groupe bolchevique.
J'informe le Congrès qu'à la demande de la Douma municipale, le comité militaire révolutionnaire a dépêché une délégation au palais d'hiver pour négocier. Ainsi, nous aurons tout fait pour éviter une effusion de sang. Bravo.
John, il est temps de rejoindre Louise et Albert au palais d'hiver.
John, pas moyen d'entrer dans le palais d'hiver.
Et puis il y a cette délégation invraisemblable de Menchevik et de Cadet, avec des généraux et des cocottes qui ont formé, paraît-il, une délégation.
C'est absolument inadmissible.
Nous avons le droit de passer.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Nous devons passer, Jean.
Nous devons. Mais qui êtes-vous ?
Déserteur.
Mais qui êtes-vous ?
Le peuple, nous devons pouvoir passer.
Que représentez-vous ?
Malkin, que faites-vous là ? Ce soir, vous ne travaillez pas pour les Russian Daily News ?
Nous allons chercher la mort au palais d'hiver.
Nous voulons passer.
Tous
ses camarades viennent du congrès des soviets.
Le comité militaire révolutionnaire m'a donné ordre de ne laisser passer personne.
Tirez sur nous si vous voulez. Nous passerons. En avant. Nous sommes prêts à mourir si vous avez le cœur de tirer sur des Russes. Oui. Sur des camarades.
Nous offrons nos poitrines à vos fusils.
Mais c'est Prokopovitch, le ministre du ravitaillement du gouvernement provisoire. Arrêté ce matin et puis relâché.
Et qu'est-ce que vous ferez si nous passons ? Vous tirerez ?
Non. Je ne veux pas tirer sur des gens désarmés. Nous ne tirerons pas sur des Russes sans armes.
Nous voulons avancer. Que ferez-vous ?
Ce qu'on va faire, on va vous rentrer dedans. Et si vous nous y obligez, nous tirerons. Entrez chez vous et laissez-nous en paix.
Camarades citoyens, on emploie la force contre nous. Nous ne pouvons laisser ces ignorants souiller de leurs mains notre sang innocent. Il n'est pas compatible avec notre dignité de nous laisser fusiller ici par des aiguilleurs. Retournons à la Douma et nous y étudierons le meilleur moyen de sauver le pays et la révolution.
Oui. Allons-y.
Aiguilleur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par aiguilleur ?
Des cheminots, non ? Pour lui, des sortes d'ouvriers ?
Vite, les soldats sont trop contents de leur bon coup, ils ne font plus attention à leurs barrières. Il fait noir, faufilons-nous.
Attention ! Les Junkers font demander qu'on leur vienne en aide !
À Красной Арке ! Строим ! Вперед ! Марш !
Les gardes rouges, joignons-nous à eux. C'est le plus sûr moyen d'entrer dans le palais.
Nous sommes des camarades américains.
Bienvenue!
Camarades, nous passons sous l'arche rouge, c'est là qu'ils vont sûrement tirer.
Élie !
Les Junkers,
vous êtes des élèves officiers. Vous avez encore la possibilité de passer du côté des ouvriers. Vous n'avez pas honte de tirer sur les civils? Eh bien, prendrez-vous encore les armes contre le peuple?
Non, je le jure.
Bien, tu es libre. À toi. Prendras-tu encore les armes contre le peuple?
Non, je le jure.
Vite tes poches et vas-y.
Allez.
Va-t'en.
Merci. Place, camarade.
Les membres du gouvernement provisoire? Kishkin, Rutenberg, Terechenko. S'ils descendent dans la rue, la foule va les lyncher.
Les amis, je pense que c'est pour nous que les choses se gâtent.
Nous avons des sauf-conduits du comité militaire révolutionnaire.
Menteur, du papier, on sait ce que ça vaut, du papier.
Aïe, ils ne savent pas lire, John.
Que se passe-t-il?
Ce sont des provocateurs. Ils disent qu'ils sont envoyés par le comité, mais ils sont promenés en liberté dans le palais. Qui nous dit qu'ils n'ont pas les poches pleines, eux aussi?
Camarade, je suis commissaire du comité militaire révolutionnaire. Avez-vous confiance en moi? Je vous dis que ces sauf-conduits sont signés du même nom que le mien. Venez. Vous l'avez échappé belle.
Qu'est devenu le bataillon des femmes?
Oh, les femmes. On les avait toutes parquées dans une pièce par derrière. On ne savait pas quoi en faire. Certaines avaient des crises de nerfs. Finalement, on les a menées à la gare de Finlande et embarquées pour Lievachovo, où elles ont un camp. Allez, sortez par cette porte à présent.
De l'autre côté de la rivière, où se dressait la masse sombre de la forteresse Pierre et Paul, montait une clameur rauque. Sous nos pieds, le trottoir était jonché de débris de stuc de la corniche du palais. Elle avait reçu un obus du croiseur Aurore. Un autre obus était tombé dans la pièce, se trouvant juste au-dessus de celle où se réunissait une dernière fois ce qui restait du gouvernement provisoire, sans Kerensky. Les vitres d'une fenêtre avaient été brisées. C'étaient les seuls dégâts causés par le bombardement. Il était 3 heures du matin. Sur la perspective Nievski, tous les becs de gaz étaient de nouveau allumés. Le canon de 3 pouces avait été enlevé et seuls les gardes rouges et les soldats accroupis autour de feu rappelaient encore la guerre. La ville était calme. Calme comme elle ne l'avait peut-être jamais été au cours de son histoire. Cette nuit-là, pas un crime, pas un vol ne furent commis.
Pierre-Marie Baudouin, John Reed. Flora Brunier, Louise Bryant. Nicolas Struve, Bill Chatoff. Julien Barret, Albert Rhys-Williams. Bruno Alain, Liev Kamenieff. Bernard Gabet, Zinoviev. Jérôme Quintard, Léon Trotsky. Léna Goussieva, Maria Spiridonova. Riazanov, Michel Sidorov. Et Félix Lebert, Thibaut Mulot, Daniel Krellenstein, Tibor Radvanihi, Nicolas Buchou, Thierry Garret, Titou Anquito, Alexandre Medvedev, Victor Ponomarev, Cédric Marouani, Olivier Peigné, Garlan Lemartelot, Bertrand de Rofignac, Aliona Kourepov. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dali Yaha, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Remerciements à l'association Amitram et au conducteur du tramway 1911 de Vendrechy Market.
Épisode 8. À l'œuvre, dans la tourmente. Lénine, enfin sorti de sa cachette, prend la parole. La première tâche du nouveau gouvernement provisoire sera l'arrêt de la guerre et l'adresse à tous les peuples des pays belligérants.
Le jeudi 26 octobre 1917, le jour se leva sur une ville au comble de l'excitation et du désarroi, sur une nation soulevée tout entière en une formidable tempête. En apparence, tout était calme. Des centaines de milliers de gens rentraient prudemment chez eux, se levaient de bonne heure, se rendaient à leur travail. À Petrograd, les tramways marchaient, les magasins et les restaurants étaient ouverts, les théâtres jouaient, une exposition de peinture était annoncée. La vie quotidienne se poursuivait dans toute sa complexité routinière, que même la guerre n'interrompt pas. Rien de plus étonnant que la vitalité de l'organisme social, continuant à se nourrir, à se vêtir, à se distraire en présence des pires calamités. Voyons les proclamations et affiches du jour. Prikaze de Kerensky, publié dans le journal SR Volia Naroda. En réponse, l'affiche du congrès panrusse des soviets. Une adresse du comité militaire révolutionnaire aux Cosaques. Des affiches du parti SR. Des mencheviks jusqu'aux baptistes.
Il y a du nouveau apparemment.
Ouais.
Regarde, l'affiche est encore pleine de colle. C'est une page de la Volia Naroda, le journal des SR. Depuis Pskov, Kerensky s'adresse aux citoyens russes. Les désordres causés par la folle tentative des bolcheviks ont mené le pays au bord de l'abîme. L'effort de toutes les volontés, tout le courage et le dévouement de chacun sont nécessaires pour sortir de la terrible épreuve imposée à la patrie.
Вот это уже что-то серьезное.
А, oui, de la lecture sérieuse.
Avis du congrès panrusse des soviets. Les anciens ministres Konovalov, Kishkin, Terechenko, Maliantovitch, Nikitin et quelques autres ont été arrêtés par le comité militaire révolutionnaire. Kerensky est en fuite. Il est ordonné à toutes les organisations militaires de prendre les mesures nécessaires en vue de l'arrestation immédiate de Kerensky et de son acheminement sur Petrograd. Toute assistance donnée à Kerensky sera châtiée comme un crime grave contre l'État.
Place, place ! Oh ! Oh ! Monsieur !
Place ! Une déclaration du gouvernement légal de Russie.
Ah, voilà des gens bien.
Mais il en met partout.
Cette fois-ci, c'est signé du Conseil de la République, du Comité central du Premier Congrès des Soviets, l'ancien Tsik, de la Douma municipale, des fractions SR mencheviks, etc.
De ces organismes, quelques-uns n'existent plus.
Le 25 octobre, les bolcheviks de Petrograd ont, contrairement à la volonté des masses révolutionnaires, criminellement arrêté une partie du gouvernement provisoire, dispersé le Conseil de la République et proclamé un pouvoir illégal. L'insurrection des bolcheviks porte un coup mortel à la cause de la défense nationale et retarde la paix ardemment désirée par tous.
Un coup mortel ? Aux marchands de canons et aux banques, oui. Et quand ils étaient au pouvoir, leur paix ardemment souhaitée, ils l'ont réalisée ? Ceux-là, au moins, ils savent coller les affiches. Ils n'en reçoivent pas toute l'assistance. Lisez-nous ça, monsieur...
Camarade.
Oui, camarade. Vous avez un accent, mais vous lisez bien.
Donc c'est une proclamation du comité militaire révolutionnaire.
Ah, ouais.
Elle s'adresse aux Cosaques. Frères Cosaques, on veut vous mener contre Petrograd. On veut vous obliger à vous battre contre les ouvriers et les soldats révolutionnaires de la capitale en vous racontant que Petrograd est les Cosaques. Ne croyez pas un mot de ce que disent nos ennemis communs, les propriétaires terriens et les capitalistes. On vous dit que les Soviets veulent confisquer les terres des Cosaques. C'est un mensonge. La révolution veut seulement confisquer les terres des grands propriétaires Cosaques pour les donner au peuple. Constituez des Soviets de députés Cosaques. Joignez-vous aux soviets des ouvriers, des soldats et des paysans. Bon, camarades, le texte est un peu long et nous devons aller à Smolny. Je suis vraiment désolé.
S'il faut quelqu'un pour le lire, je peux le faire. Montrez au sang noir que vous n'êtes pas des traîtres au peuple et que vous ne voulez pas être maudits par toute la Russie révolutionnaire.
Prenons le tramway, John. Nous serons plus vite à Smolny.
Avant toute chose, camarades, je rappelle brièvement l'essentiel de nos premières décisions gouvernementales. Abolition de la peine de mort dans l'armée. Bravo. Restauration de la liberté de propagande. Oui. Mise en liberté des officiers et des soldats arrêtés pour délit politique. Ordre d'arrêter Kerensky. Et confiscation des stocks de vivres dans les magasins privés. La parole au Bund, Parti socialiste juif.
Camarades, l'attitude intransigeante des bolcheviks signifie l'étouffement de la révolution. Aussi, les délégués du Bund se voient dans l'obligation de ne pas participer plus longtemps au congrès des soviets.
Nous pensions que vous étiez déjà partis hier.
Combien de fois comptez-vous encore partir comme cela?
Je demande la parole en tant que menshevik internationaliste.
Comment? Encore vous?
Une partie seulement des mencheviks internationalistes a quitté le Congrès. Les autres sont décidés à rester. Nous estimons dangereuse, peut-être même fatale pour la révolution, la remise du pouvoir aux soviets. Mais nous considérons qu'il est de notre devoir de rester au Congrès et de voter ici contre elle.
D'autres n'ont pas cette honnêteté. Au moins, dans sa candeur, ce menshevik internationaliste reconnaît qu'il ne veut pas du pouvoir que les ouvriers de Petrograd déposent à ses pieds.
Le reste des mencheviks et des SR peut bien parler de coup d'État.
Camarades, tout cela n'est pas sérieux. Je suis délégué des mineurs du bassin du Donetsk. Et je demande au Congrès de prendre des mesures contre le ministre Kaledine, qui peut couper à tout moment le ravitaillement en charbon et en vivres de la capitale.
Camarades, j'arrive du front. Là-bas, c'est toujours l'horreur. La boue, le sang, la boucherie. Mais nous avons mis nos officiers aux arrêts. Et je vous apporte le salut de mon régiment. Le Congrès doit envoyer sa propagande sur tout le front pour empêcher Kerensky de détourner des troupes contre la révolution.
La parole est au camarade Lénine.
Ouais.
nous passons maintenant à l'édification de l'ordre socialiste. En premier lieu, il faut adopter des mesures pratiques pour réaliser la paix. Nous offrirons la paix à tous les peuples des pays belligérants sur la base des conditions soviétiques. Pas d'annexion, pas d'indemnité, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En même temps, conformément à notre promesse, nous rendrons public et nous répudierons tous les traités secrets. C'est le sens de la résolution que nous allons mettre aux voix. En adressant cette proposition de paix au gouvernement et aux peuples de tous les pays belligérants, le gouvernement provisoire ouvrier et paysan de Russie s'adresse aussi plus spécialement aux ouvriers conscients des trois grandes nations les plus avancées de l'humanité, des trois plus grands États participant à la guerre actuelle, aux ouvriers d'Angleterre, de France et d'Allemagne. Les ouvriers de ces pays ont rendu les plus grands services à la cause du progrès et du socialisme, comme en témoignent les grands exemples du mouvement chartiste en Angleterre. Les révolutions d'une portée historique, universelle, accomplies par le prolétariat français en 1848 et en 1871. Enfin, la lutte héroïque contre les lois d'exception en Allemagne. Et le long travail acharné et discipliné pour créer dans ce pays des organisations prolétariennes de masse. Travail qui peut servir d'exemple aux ouvriers du monde entier. La révolution des 24 et 25 octobre a ouvert l'ère de la révolution sociale. Le mouvement ouvrier, au nom de la paix et du socialisme, vaincra et accomplira sa destinée.
Yes.
sera bon.
Vous êtes tombé dans la lutte fatale, victime de votre amour sacré pour le peuple. Vous avez tout donné pour lui, pour sa vie, son honneur et sa liberté. Vous avez souffert dans les prisons humides. Condamné par d'impitoyables bourreaux, vous avez connu l'exil sous le poids des chaînes. Adieu, frère, vous avez suivi un noble sentier. Le temps vient où le peuple s'éveillera, grand, puissant et libre. Adieu, frère.
Barine, votre pelleton.
Ah oui, mais ne m'appelez plus Barine, je vous en prie. Le temps des excellences et des seigneurs est révolu. Appelez-moi camarade, comme tout le monde.
Vous aussi, alors, vous vous y mettez, même les Américains. Ici, je n'ai jamais entendu ce mot aussi souvent qu'aujourd'hui.
Pourtant, il y a bien des élus socialistes à la Douma municipale, ceux qui ont été élus il y a longtemps déjà.
Oui. Mais on dirait qu'ils veulent changer de style aujourd'hui.
Je vois que vous avez tout compris.
Imaginons qu'on veuille reconnaître un gouvernement de baïonnettes. Eh bien, nous en avons un. Mais je ne considère comme légitime qu'un gouvernement reconnu par le peuple, par sa majorité, et non une création d'usurpateurs minoritaires.
Ne faites pas semblant d'ignorer comment s'est passé le congrès des soviets. La décision du congrès émane des délégués venus de toute la Russie et représentant la majorité du peuple. Donc, la Russie, dans son ensemble, approuve la décision des bolcheviks.
Non, c'est une honte.
Vous, la majorité de la Douma municipale, vous ne représentez plus le peuple de Petrograd.
Insulte. Nous avons été élus par le vote populaire le plus libre qui soit.
Oui, mais c'était il y a longtemps, trop longtemps. Tout comme pour le comité central des soviets, le TSIK, et pour les comités de l'armée.
Oui. Il n'y a pas eu de nouveau congrès des soviets.
La fraction bolchevique refuse de demeurer plus longtemps dans ce nid de la contre-révolution. Nous demandons de nouvelles élections à la Douma municipale.
Au nom du syndicat des cheminots, le Vigel, j'annonce notre adhésion au comité de salut. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir des bolcheviks et nous avons pris en main l'exploitation des chemins de fer, car nous refusons de les livrer à un pouvoir usurpateur.
La direction actuelle du syndicat des cheminots est menchévique, mais elle aussi a été élue il y a longtemps. Depuis, je parie que l'état d'esprit des cheminots a changé.
Toutes les lignes télégraphiques vers Smolny sont coupées. Nous, employés des télégraphes, refusons de travailler tant que le commissaire bolchevique sera dans nos locaux. Nous ne sommes pas des ouvriers qu'on mène à la baïette.
Mon nom est Neratov. Je suis vice-ministre des Affaires étrangères. Lorsque le bolchevique Ouriski est venu à mon ministère pour me demander la communication des traités secrets, je l'ai poliment mais fermement éconduit. Chez nous, les fonctionnaires cessent le travail.
Bravo !
Neratov, ancien diplomate tsariste qui appelle à la grève.
J'insiste sur les tournées dans les casernes. Vous devez travailler les soldats afin d'obtenir un engagement de neutralité lorsque les troupes de Kerensky arriveront à Petrograd. Ne vous laissez pas rebuter par certains aspects physiques, comme la saleté. L'argument principal est « Soldats russes, ne répandez pas le sang de vos frères. »
Oui.
Monsieur le journaliste, vous devez savoir. Je possède des informations sur la prise du palais d'hiver.
Oui, eh bien.
Les bolcheviks étaient conduits par des officiers allemands et autrichiens.
Vraiment? D'où tenez-vous cela?
C'est un de mes amis qui y était et qui les a vus.
Comment a-t-il pu savoir que c'était des officiers allemands?
Mais... il portait l'uniforme allemand.
C'était la propagande de guerre qui revenait, comme au plus fort de la guerre impérialiste, en France et chez nous aux États-Unis. Entre les commissaires de la Douma municipale, centre de la contre-révolution, et les commissaires de Smolny, s'engageait une course de vitesse pour rejoindre par le train les différentes provinces. Guerre de propagande. Au matin du 27 octobre, deux aéroplanes chargés de tracts et de journaux bolcheviques prenaient leur envol vers le front.
Avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed, Flora Brunier, Louise Bryant, Julien Barret, Albert Rhys-Williams, Bruno Alain, Liev Kamenev, Sergei Vladimirov, Lénine, Jérôme Quintard, Léon Trotsky, Georges Kless, Schreiber, Igor Desavitch, Skobeliev, et François Kergourlet, Orhan Abassov, Philippe Barrier, Dimitri Rafalski, Anton Yakovliev, Pauline Panasenko, Léo Barcet. Musique originale, Sylvain Cassat. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dali Yaha, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Remerciements à l'association Aéro-Rétro et au pilote du biplan Stearman, Médéric Beignat.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
Écoutez le requiem des ventres creux qui montent loin, grand plus fort à chaque nouvelle recrue. Ces crocs sont acérés, brillent d'une blancheur nacrée. Ayez crainte, car ils n'attendent qu'une chose, qu'on les libère de leur écrin. Nous vous cracherons nos cris coincés dans le gosier, avec la poésie des bêtes de somme qui sortent de l'enclos. Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots, et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers. Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique, oui, nous serons pour vous la langue lourde et méthodique. Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire. L'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier ton Dieu. Préparez votre retraite. Une horde d'affamés s'amassant bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la cautériser l'endroit où croisse la tendresse. Oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu et vous défie du fond des yeux d'un air ferme et résolu. Et là, vous comprenez trop tard que votre époque est révolue. Que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu. La pluie inondera de larmes le pavé. Le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes. Des coulées de dégoût engloutiront tous vos palais, charriés par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier ton Dieu. Paternaliste, vos sourires narquois et tous vos traits d'humour raciste. Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes, vous gargariser de dividendes et jouir du fruit de vos rentes. Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra. Vous maudirez votre petit personnel et les traiterez d'ingrats. Et nous, nous les bâtards, les rebus et les déchets, nous nous danserons autour du grand bûcher de vos rêves déchus. Le soulèvement aura lieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau prier ton Dieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et t'auras beau.
Radio Primitive.
La radio associative.